l'été, midi pile, avec Simon Tremblay, Marc Tiquet et Fred Gagné.
À midi 25, on nous rapporte qu'il y a actuellement un incendie qui fait rage sur la rue des Jaseurs à Chicoutimi. Peut-être plus de fumée que d'autres choses, mais quand même opération de pompiers dans ce secteur-là. Il y a également un périmètre de sécurité pour permettre l'opération. On aura sûrement plus de détails un petit peu plus tard là-dessus. Maintenant, vous savez qu'on a entendu régulièrement durant les points de presse qu'on vous diffuse en direct à 13h de François Legault. On n'a pas eu chance au Québec en raison de la date de notre semaine de relâche. Ce qui n'aurait pas aidé, justement, à la propagation de la COVID-19 au Québec. On l'a entendu souvent, celle-là. Comment le prouver? Les déplacements...
Je trouvais ça lourd de sens parce qu'on dirait que... On se disait, est-ce qu'on est des idiots? Pourquoi le Québec est au bas des accusés là-dedans? Pourquoi notre semaine de relâche n'est pas en même temps que tout le monde? Puis est-ce que c'est parce que les Québécois ont mal agi? Y a-t-il quelque chose qu'on a fait de tout croche comparativement à l'Ontario ou la Colombie-Britannique où il y a des provinces qui, oui, sont moins nombreuses, mais qui n'ont que quelques centaines de cas? Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Puis Simon, dans la vie, là... Tout le monde a droit d'avoir son opinion. Le gars de radio a droit à son opinion. Le kidam à maison qui est sur le chômage ou sur la PCU a droit à son opinion. Tout le monde l'a. Mais c'est encore mieux quand tu t'appuies sur des faits.
Faut que ce soit appuyé sur quelque chose.
Surtout dans un climat présentement social ultra déchiré, polarisant, avec des conséquences à venir épouvantables. Si t'affirmes de quoi, t'as le droit. T'es un pays libre. T'es pas en Chine, ici. Mais c'est encore mieux si t'as des faits.
Absolument. Puis tu sais, le gouvernement, la santé publique ont assurément des données qu'on n'a pas. Puis il y aurait peut-être bien eu avantage à en rendre certaines publiques pour prouver leur tir. Mais on en comprend un petit peu plus aujourd'hui sur les déplacements du Québec, du Canada, même des régions, grâce à une technologie qui a été utilisée par une entreprise qui se spécialise en marketing mobile. On va rejoindre le cofondateur de Draco Media, Laurent Elkaïm. Bonjour.
Bonjour Fred et Simon, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Merci, très bien.
Dites-moi comment ça s'est passé pour que vous soyez en mesure de récupérer des données de transport des Québécois, des Canadiens, pour comprendre un petit peu les déplacements de ceux-ci?
Voilà, donc nous, dans les faits, comme vous l'avez indiqué un peu avant, Draco Media, c'est une compagnie spécialisée en marketing mobile et en particulier en géolocalisation. Donc, essentiellement, les données, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec environ 800 applications, des applications de météo, des applications de cartographie, des applications de jeux, etc., de nouvelles, etc. Et essentiellement, vous, comme utilisateur, si vous téléchargez une de ces applications, à la fin du téléchargement, vous avez déjà eu ça, on vous a déjà proposé si vous acceptez ou non de confier votre géolocalisation. Essentiellement, si vous répondez oui, ben on a établi un partenariat avec ces 800 applications et puis on est capable ensuite de capturer d'une façon régulière la localisation d'un identifiant cellulaire qui est anonyme, c'est important de le mentionner, mais qui nous permet ensuite d'avoir accès, alors par exemple au Canada, sur une période de 2 ou 3 mois, à peu près à 7,9 millions de téléphones cellulaires et plus de 8 milliards de points de localisation durant cette période. Alors avec cette masse de données, ben on a commencé à regarder les mouvements, etc. Et c'est comme ça que on a pu travailler sur cette étude.
Il y a plein de constats. Le papier qui est publié, ou ben, disons, accessible par Radio-Canada, qui relate vos données, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et oui, il y a la fameuse histoire de la semaine de relâche. On n'est pas chanceux, les Québécois, parce que ça nous a amené circonstanciellement parlant dans un mauvais timing. Mais faut bien comprendre que ça va plus que ça. C'est-à-dire que vous avez évoqué les déplacements interrégionaux, les déplacements interprovinciaux et les déplacements internationaux, ce qui a créé particulièrement pour Montréal ce qu'on appelle une tempête parfaite.
Alors, en effet, comme vous le comprenez, donc avec nos 8 milliards de points de localisation, on avait assez de données pour pouvoir regarder la situation, pas seulement au niveau canadien ou au niveau international, mais beaucoup plus la regarder. On a été capable de la regarder pour chaque... alors, ça s'appelle des FSC, pour chaque code postal. Donc, en gros, les 3 premières lettres ou chiffres d'un code postal, H3Y, n'importe quel code postal, on a été capable de regarder les mouvements de population à partir de chacun de ces codes postaux. On va pas plus loin, pour des raisons de confidentialité, d'agrégation, etc. Mais c'est quand même déjà pas mal précis. Donc, pour chaque région, pour chaque quartier dans les villes, etc., on peut regarder ces mouvements. Et c'est à partir de là où la taille des données et puis la précision de ces données nous permet d'avoir ces éléments-là.
Est-ce que vous êtes allé aussi loin qu'à comparer vos données, vos graphiques avec l'évolution du nombre de cas au Québec, au Canada?
Alors, dans les faits, ce travail de comparaison, ça a été fait par le journaliste de Radio-Canada qui a croisé nos données avec l'évolution du nombre de cas région par région pour essayer de mesurer des corrélations entre l'importance de ces déplacements et puis les cas. Alors évidemment, comme vous le savez, au moment où on se déplace beaucoup, ça ne veut pas dire qu'immédiatement on a des cas en plus. Il faut facilement 2 à 3 semaines qu'on voit finalement des gens qui sont mesurés, qui testent positifs au COVID-19. Donc on voit toujours un effet retard. Quand on voit une pointe de déplacement, cette pointe, on va la voir 2-3 semaines plus tard, lorsque les personnes soit sont positives, soit malheureusement sont obligées d'aller à l'hôpital ou autre.
Donc, ce qu'on peut quand même dire maintenant avec plus de certitude que seulement le lancer dans une conférence de presse comme l'avait fait François Legault, effectivement, si la semaine de relâche avait été après le début du confinement, la situation aurait assurément été moins pire.
Selon ce qu'on a vu, nous, c'est très, très clair. On regarde, parce que ce qu'on a fait, c'est que dans notre étude, on a dit, le mois de février, on va dire, c'était un mois normal. Alors, on a regardé un peu les déplacements, qu'est-ce qui est raisonnable? Et puis, vous comprenez qu'un déplacement au Saguenay ou un déplacement à Montréal, c'est pas forcément les mêmes. Il y a peut-être plus de distance parcourue dans des régions pour plein de raisons différentes. Donc, ce qu'on a voulu, c'est comparer par rapport à la normale. Dans chacun des codes postaux, dans chacune des régions, qu'est-ce qui était normal? On a décidé que c'était le mois de février. Et quand on regarde la semaine de relâche du mois de mars, on a vu quand même une augmentation des déplacements de près de 92% par rapport à la normale. Donc, ça a doublé essentiellement du 26 février au 12 mars, plus ou moins, quand c'est plus ou moins espacé, dépendamment des écoles, etc. Et puis, après le confinement, donc juste après, le 13 février, quand on regarde la chute, par rapport à la moyenne de février, on a diminué de plus de 2/3. Donc, vous voyez, un doublement du trafic et après un effondrement. Mais le problème, c'est que si on avait on avait évité ce doublement du trafic, tout simplement parce que le confinement aurait été fait une semaine avant, on aurait évité un tas de déplacements qui a contaminé beaucoup de monde.
Et là, il faut faire attention parce que vous êtes dans la collecte de données, dans le marketing de données, tout ça. Donc, vous n'êtes pas dans le domaine de la santé, mais l'article comme tel évoque des choses très claires. Entre autres, lorsqu'on cite Benoît Barbeau, qui est le professeur en sciences biologiques à l'UQAM, pour lui, c'est clair, entre autres, que si on avait fermé les frontières, donc les aéroports, plus rapidement, et particulièrement celle de Montréal, on aurait pu diminuer grandement l'impact d'épidémie.
Absolument. Alors, premièrement, je ne suis absolument pas un spécialiste médical. La seule chose qu'on a fait, nous, c'était de constater ces variations de mouvements, de trafic dans chacune des régions. Et puis, à partir de là, ce qu'a fait le journaliste de Radio-Canada, c'est d'aller interviewer des experts pour essayer de tenter de dire ces augmentations de mouvements, ça peut générer quoi en termes d'impact? Et ce sont ces spécialistes qui ont pu commenter. Donc, on fournit seulement les données. On n'est pas des experts pour les traduire.
Mais dernière chose, justement, est-ce que vous croyez que cette crise-là qu'on vit va carrément changer l'utilisation de ces données-là, que la santé publique, les gouvernements vont les utiliser davantage?
Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est que, en particulier en France, ces données globales et agrégées, donc pour des raisons confidentielles, anonymes, etc., ont déjà été utilisées depuis près d'un an par l'Institut national de la recherche médicale en France. Parce que effectivement, quand on veut comprendre comment se propage une épidémie, ce genre de données pourrait être très intéressant. Puis, peut-être on espère quand même que cette crise, on va apprendre beaucoup et j'espère qu'on va être de mieux en mieux. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ce genre de données, ça pourrait être vraiment utile si jamais ça doit recommencer. On ne souhaite pas rapidement, mais ça devrait être des leçons sur lesquelles on va améliorer nos estimations. Par contre, utiliser le grand discours de pouvoir tracer des individus, envoyer quasiment la police pour leur donner des amendes parce qu'ils ne respectent pas les confinements, etc., c'est vraiment une histoire complètement différente sur laquelle on ne travaille pas du tout. Nous, on travaille de façon agrégée et anonyme, un petit peu comme Statistique Canada lorsqu'il y a un recensement. Mais on peut quand même apprendre beaucoup de choses avec ces données-là.
Mais c'est tout le temps la peur des gens quand même, hein, de se dire « je veux pas avoir le gouvernement dans mes culottes », même si on leur assure que c'est anonyme, il y a toujours une méfiance et une crainte.
Vous avez absolument raison. C'est pour ça, effectivement, c'est important de mettre un certain nombre de réglementations. Donc, comme vous le savez, ces données, maintenant, respectent la réglementation européenne, la loi européenne, la directive européenne sur le respect de la vie privée. Donc, c'est tous ces éléments sur le consentement, sur le respect, finalement, de la vie privée, c'est des éléments qui doivent être encadrés, mais un peu comme un couteau. C'est un outil qui est excellent. Bien utilisé, c'est extraordinaire. Mal utilisé, un couteau, ça peut faire mal.
Ouais. Laurent El-Khaim, cofondateur de Draco Media, merci beaucoup, très gentil.
Merci beaucoup à vous. À bientôt.
Salut. Au revoir. Fascinant.
C'est tellement une réalité moderne et si vous ne la connaissiez pas, elle existe déjà.
Ben oui.
Puis il y a raison. Moi, je vais prêter bonne foi à M. El-Khaim parce que pour comprendre une évolution de pandémie, pour comprendre certains mouvements et tout ça, de population, de circulation, de toute façon, ne serait-ce que pour le trafic, aussi niaiseux que ça peut être, là, tout le traçage de vos données, si c'est fait de manière anonyme, sans intention réellement mercantile ou malsaine ou terroriste à l'extrême, je pense qu'on est là. Mais la crainte des gens, et je la partage aussi, c'est d'avoir le gouvernement qui me suit d'un short, à savoir « Hey Fred, t'es allé en Beauce en fin de semaine, t'as fait du millage, t'as dépensé ça de CO2, faut que tu payes des indulgences carboniques ou un service de détective privé qui va dire « T'as trompé ta blonde parce qu'on t'a suivi. »
Ça, ton c'est assureur.
Mon assureur.
Tu disais ton assureur que tu fais tant de kilomètres par année, mais il se rend compte que finalement, grâce à ces données-là, qu'il a acheté d'une autre... Tu sais, il y a tout le temps cette crainte-là, puis bon, je suis pas extrémiste, mais... Tu peux dire...
Mais écoute, je t'emmène 4 chiffres. Ils sont importants. Ouais. L'article s'appelle « Analyse de milliards de données cellulaires. La relâche québécoise a catalysé l'épidémie. » Allez lire, OK? Je vous le dis rapidement. 4 chiffres. Du 2 au 23 février, des semaines avant le début de la crise au pays, 133 000 Canadiens se déplaçaient d'une province à une autre chaque jour. Des mouvements interprovinciaux, c'est quoi? 133 000 à chaque jour. Deuxième chiffre. Au déplacement intérieur, il faut ajouter les 165 000 voyageurs qui reviennent chaque jour de l'étranger en moyenne. Ça, c'était des gros joueurs également. Lors des 3 premières semaines de février, 343 000 personnes se déplacent d'une région du Québec à une autre chaque jour. Et également, à ce moment-là, à la mi-mars, à Montréal, on parle de Montréal, la métropole n'a que 3 cas confirmés. Par contre... il y avait 600 avions qui décollaient ou atterrissaient chaque jour aussi.
Puis, tu sais, je sais que pour la crise, ça ne change pas grand-chose, mais par curiosité, allez voir sur le site de Radio-Canada, l'outil interactif est super bien fait. Puis, tu sais, ils ont les moyens de faire ça, chapeau à eux, là. Mais tu peux cliquer région par région, puis tu vois le nombre de déplacements qu'il y a entre Capitale-Nationale et Saguenay-Lac-Saint-Jean par jour. Même affaire pour Montréal-Laval et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par curiosité, allez vous promener un petit peu là-dessus, c'est intéressant.
95.7 Kick, Saguenay, midi pile. On revient dans quelques minutes. Samedi et dimanche, avec Jean-François Thorn.
Classique 80-90. You're unbelievable.